Chapitre 11. Une ruelle poétique sous Louis XIV. Pavillon, Saint-Pavin, Hainaut, Madame des Oulières, etc. Revenons à nos moutons et ne mordons plus personne. On me l'a conseillé, c'est le plus sage. Un peu d'idylle, même en critique. Je reprends ma houlette et je fais taire mon chien. En parcourant dernièrement cette quarantaine de petits volumes, où, sous le titre d'annales poétiques, est enterré, en fait de vers, tout ce qu'on ne lit plus, où Lamonnois tient autant de place que Racine, où Pavillon offre deux fois plus de façades que Despréaux, un petit résultat évident m'est apparu. Il y a eu toute une école poétique au XVIIe siècle et au commencement du XVIIIe, pour laquelle, à certains égards essentiels, le siècle de Louis XIV n'a pas existé. Elle se continue avec le goût Louis XIII et de la première régence et finit à la seconde, sous La Motte et Fontenelle. Elle part de voiture Saint-Évremont. Elle est assez d'accord avec la première manière de La Fontaine. Elle se cantonne, durant Boileau et Racine, à l'hôtel Bouillon, chez les Nevers, les Desoulières, Hainaut, Pavillon, Charles Perrault. Voici l'anneau trouvé avec Fontenelle. Un double caractère de cette petite école est d'être à la fois en arrière et en avant, de tenir à l'âge qui s'en va et au siècle qui vient, d'avoir du précieux et du hardi, enfin, de mêler dans son bel esprit un grain d'esprit fort. Ce dernier point n'est vrai que de quelques-uns sans doute, mais il est assez pour qu'on y voie un trait de caractère. Saint-Pavin, Hainaut, Madame des Oulières elle-même, tenaient du philosophe, de l'indévot. Par leur liberté de pensée en morale, non moins que par leur goût en poésie, ils devaient être antipathiques à Despréaux, à Racine. Le goût élevé, exclusif de ceux-ci, se combinait au fond avec la gravité morale et s'y appuyait. Il représente le siècle de Louis XIV à son centre. Bayle, qui vécut toujours hors de France, qui ne tient point, à vrai dire, au règne de Louis XIV, qui, par le style comme par les idées, fut plutôt du siècle d'avant ou de celui d'après, Bayle admira beaucoup cette petite école. Il la jugeait très poétique et tout à fait à son gré. Ses affinités, comme ses antipathies, quand elles s'adressent non pas à un individu mais à des groupes, dénotent l'esprit secret et ne trompent pas. Une certaine conscience intérieure, au milieu de tout leur succès de société, semble avoir averti les poètes et beaux esprits de ce bord, qui n'étaient pas à leur vraie place dans le siècle, que leur moment était passé ou n'était pas venu, que d'autres véritablement grands régnaient, qu'ils étaient évincés en un mot. J'aime à croire que cette sorte de découragement et de dépit ajouta chez quelques-uns à l'incomplet du talent et contribua au chétif emploi qu'ils en firent. C'est du moins une excuse. Chassés du haut du pavé, ils prirent et gardèrent la ruelle. Rien de grand chez eux, ni de haute haleine. Ils ont vécu au jour le jour en épicuriens de la gloire, heureux des roses et des faveurs de chaque matin, gaspillant à des riens mille grâces. Quand on parcourt leurs œuvres décousues, inégales, sans composition et sans dessin, on est souvent surpris de trouver un morceau charmant, une idylle, une épigramme heureuse. Tous ces gens-là ont fait en leur vie une bonne petite pièce. Mais la seconde ne s'y rencontre pas. Ce qui les a perdus, c'est le tous les jours. Si quelqu'un mérita par son talent de prétendre à plus et d'oser mieux, c'est certainement Hainaut. C'est lui aussi qui, de tout ce groupe, paraît avoir le mieux compris la position fausse où l'esprit, le goût libertin, allait se trouver sous Louis XIV, par devant Despréaux le censeur et en regard du décorum grandissant. Il considéra de bonne heure sa vie, même de poète, comme une partie perdue, et tournant le dos à l'avenir comme au grand ennemi, il ne s'occupa qu'à piller tout le premier le butin. L'aimable et moins hardi Pavillon n'était point ainsi. Je ne sais s'il se tourmenta beaucoup de la renommée, mais il ne la méprisait pas et crut la posséder suffisamment. Les trois quarts de sa longue vie, toutes diaprées de madrigaux et de conseils à Iris, se passèrent dans les jouissances littéraires sans envie, dans la goutte sans aigreur. Il eut de la gloire dans sa chambre. également bien avec Boileau et avec Talmant, il succédait aussi couramment à Benserade dans l'Académie française qu'en Racine dans l'Académie des inscriptions. Il mourut, âgé de 73 ans, écrit l'honnête Nicéron, ayant conservé jusqu'à son dernier moment son bon sens, sa réputation et ses amis. Rien que cela, en pourrait-on dire autant aujourd'hui de beaucoup de nos grands hommes? Sa fable intitulée « L'honneur », très courte, il est vrai, semble de La Fontaine au temps de Fouquet. Saint-Pavin, qui lui est supérieur en vivacité, en hardiesse, a du prix comme poète. Fontenelle le goûtait beaucoup. Dans un choix en 6 volumes, fort bien fait, où le siècle de Louis XIV en poésie est d'ailleurs comme nom avenu, et où il paraît que Fontenelle a mis la main, Saint-Pavin tient une bonne place entre Charleval et Voiture. Il le mérite de tout point. Fût-il un peu contrefait, comme son portrait tracé par lui-même l'indiquerait, son esprit, en ce cas, justifia le proverbe en redoublant de gentillesse. C'était du plus coquet et du plus fin dans le monde même de Madame de Sévigné, sa voisine de campagne à Livry. Il eut du Chaulieu dans ses mœurs, dans sa vie de bénéficier à ses licencieux. Son tour exquis, railleur, ne rappelle pas mal cet autre abbé poète, Mélin de Saint-Gelais. Il hanta fort des barreaux dans sa jeunesse. On l'a même voulu rattacher au poète Théophile. Du milieu de ses délices, il songeait à l'art et le pratiqua. Ses vers sont très soignés. Il a fait nombre de sonnets et à peu près les derniers en date avant l'espèce de renaissance que nous-mêmes avons tentée. On peut dire que si le rondeau, à cette époque, est mort sous Benserade, le sonnet a fini avec Saint-Pavin. Mais celui-ci n'abusa point autant que l'autre du genre et dans ses mains la pointe ne s'est pas émoussée. J'en pourrais citer de délicatement tendres. En voici un de piquant. Il ne faut point tant de mystère. Rompons, Iris, j'en suis d'accord. Je vous aimais, vous m'aimiez fort. Cela n'est plus, sortons d'affaire. Un vieil amour ne saurait plaire, on voudrait déjà qu'il fût mort. Quand il languit ou qu'il s'endort, il est permis de s'en défaire. Ce n'est plus que dans les romans qu'on voit de fidèles amants. L'inconstance est plus en usage. Si je vous quitte le dernier, n'en tirez pas grand avantage. Je fus dégoûté le premier. Dans la première scène de Mademoiselle de Belle-Île, la marquise de Prie, attendant le duc de Richelieu, ne pourrait-elle pas trouver ce sonnet-là sur sa toilette comme à propos? Saint-Pavin en a donné une quantité d'aussi jolie, d'aussi aiguisée. Noble forêt, ici vint Lavallière, ici Diane en ses règnes si beaux, et la charmille éclatait au flambeau. La chasse court, le cerf fuit, le cor sonne. Pour prolonger ce que l'ombre pardonne, vous ménagiez le feuillage au berceau doux vent d'automne. Ô ma beauté, n'y soupirez-vous pas? Pourquoi ce cri vers le désert sauvage? Sur son coursier, la voilà qui ravage rocs et alliés et franchit tous les pas. Cœur indompté, l'air des bois l'aiguillonne, l'odeur des pins l'enivre. Ah, c'est assez! Quand la forêt la va faire amazone, soufflez sur elle et me la tiédissez, doux vent d'automne. Il ne se laissait pas faire. Boileau l'a touché et y attrapait sa piqûre. Il espérait l'avenir pour ses vers. Rendons-le lui du moins autant qu'il nous est possible en les goûtant. Il l'a dit lui-même de son esprit. Je l'ai vif dans les réparties et plus piquant que les orties. Il eut fort souvent affaire aux coquettes et s'en vengea. On vient de voir ce qu'il dit à l'une. Voici pour une autre. Le changement vous est si doux que, quand on est bien avec vous, on ose s'en donner la gloire. Celui qui peut vous arrêter a si peu de temps pour le croire qu'il n'en a pas pour s'en vanter. À une dévote un peu tendre, mais qui ne l'était pas assez. N'écoutez qu'une passion, deux ensemble, c'est raillerie. Souffrez moins la galanterie ou quittez la dévotion. Tout le monde se met en peine de vous voir toujours incertaine sans savoir à quoi vous borner. Vous finirez comme une sotte, vous ne serez jamais dévote, vous ne pourrez jamais aimer. Mais voici peut-être l'épigramme en ce genre la plus sanglante qui, si elle n'est pas de lui, est de quelqu'un de ses élèves, et je la cache tout au bas. Vous voulez, en femme d'honneur, me refuser le point suprême? Vous marchandez à qui vous aime l'entier abandon du bonheur. Mais allez, vous avez beau faire et triompher d'un air sévère quand de l'âge revient battu. Au lieu du tout, si l'on ne donne qu'une moitié de sa personne, on n'est qu'une demi-vertu. Et pourquoi faire fi de son plaisir? Un vieil ami que j'ai dans le canton de Vaud, vrai connaisseur en poésie, un homme qui a vu André Chénier en 89 et qui faisait alors lui-même à Paris un journal très en vogue, qui depuis s'est enfermé dans les vieux livres et qui sait son La Fontaine mieux qu'éditeur au monde, M. Cassat me disait « Quand j'ai lu Théocrite, je lis encore Fontenelle. Je préfère l'un, mais je sais passer à l'autre. Je chausse alors un autre bonnet de nuit et je jouis d'une autre oreille. » Ce serait trop demander pourtant au lecteur d'aujourd'hui que de me suivre en détail près de chaque poète de cette famille, de cette coterie. On aime à retrouver tout un monde dans un fraisier, mais il ne faut pas que le fraisier soit trop desséché ni mort. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, reviennent de droit à notre confrère M. Challes à titre de victime de Boileau. Il est un nom célèbre qui va me suffire à résumer, à développer mon aperçu. Je m'en tiendrai à Madame Desoulières. Malgré ses injustices contre Racine, malgré l'inimitié de Boileau et les allusions vengeresses du satirique peu galant, elle a survécu. Elle a joui longtemps de la première place parmi les femmes poètes, et ce n'est que devant un goût plus nouveau et dédaigneux que sa renommée est venue mourir. On s'est impatienté à la fin contre ces petits moutons toujours amenés. On avait commencé par les lui contester et l'accuser sérieusement de les avoir dérobés ailleurs. Mais il a suffi, sans tant y prendre garde, de les lui attribuer pour la faire paraître insipide. Elle valait beaucoup mieux que sa réputation aujourd'hui. Quand on lit un choix bien fait de ses vers, desquels il faut retrancher absolument et ignorer tant de fadaises de société sur sa chatte et sur son chien, on est frappé chez elle de qualités autres encore que celles qu'on lui accordait jadis. Elle semble plus moraliste qu'il ne convient à une bergère. Il y a des pensées sous ses rubans et ses fleurs. Elle est un digne contemporain de M. de La Rochefoucauld. On s'aperçoit qu'elle savait le fond des choses de la vie, qu'elle avait un esprit très ami du vrai, du positif même. On ne s'en serait pas douté à lui en voir souvent si peu dans l'expression. Mais ses contraires se concilient. On s'appelle Iris ou Climène, ou de nos jours, de quelque nom à la Médora. La nature retrouve son compte là-dessous. Madame Desoulières, n'étant encore que Mademoiselle de Lagarde, eut pour maître Hénaud, et Bayle prétend qu'on s'en aperçoit bien. Il paraît qu'Hénaud fut un peu amoureux d'elle, comme Ménage de Madame de Lafayette, son écolière. Mais très peu pédant qu'il était, il ne le lui dit pas en vers grec ni latin. On a son épître à Sappho, dans laquelle il s'attache à lui déconseiller la gloire et à l'édifier sur l'amour. C'est une très ingénieuse pièce contre l'immortalité poétique. Esno n'y croyait pas. En revanche, on nous dit qu'il avait trois systèmes différents sur la mortalité de l'âme, tant il avait peur d'y manquer. Après avoir démontré fort joliment que la gloire après la mort n'est rien, il continue. Cessez donc, ô Sappho, de vous en faire accroire. Dans un monde nouveau, ne cherchez plus la gloire et faites succéder au soin de l'acquérir le soin de la connaître et de vous en guérir. Mais quoi, faut-il purger d'une erreur si grossière un esprit si perçant et si plein de lumière? Si vous avez besoin d'être désabusé, c'est d'une erreur plus fine et plus autorisée. Le partage des morts se fait peu souhaiter, mais celui des vivants a de quoi vous tenter. Si la gloire pour vous n'est rien après la vie, tandis que vous vivez, elle vous fait envie. Comment pourrait-elle exciter un désir si l'on ne la croyait elle-même un plaisir? C'en est un, il est vrai, pour quelques âmes vaines. Mais hélas, c'en est un qui donne mille peines. Il en est, ô Sappho, qui n'ont rien que de doux. Si vous les connaissez, que ne les cherchez-vous? S'ils vous sont inconnus, vous manque-t-il en maître? Écoutez donc, Sappho, la nature et l'amour. Je vous viens, de leur part, révéler leur mystère. Je n'en parle pas mal et je sais bien me taire. » Hénon n'y allait point par deux chemins, on le voit. Madame Desoulières ne le suivit sans doute qu'avec discrétion. Dans ses vers, pourtant, elle s'est ressentie des préceptes généraux du maître. Bayle leur a fait à tous les deux l'insigne et maligne faveur de les impliquer dans une note de son article Spinoza. Il cite d'elle les vers qui terminent l'idylle du ruisseau. « Courez, ruisseau, courez, fuyez-nous, reportez vos ondes dans le sein des mers dont vous sortez. Tandis que, pour remplir la dure destinée où nous sommes assujettis, nous irons reporter la vie infortunée que le hasard nous a donnée dans le sein du néant d'où nous sommes sortis. » En paraissant admettre comme correctif que probablement la dame, en cela, n'avait suivi que des idées poétiques qui ne tirent pas à conséquence, Bayle a soin d'ajouter tout aussitôt, selon sa méthode de nous dérouter, « Ce n'est pas qu'on ne puisse cacher beaucoup de libertinage sous les privilèges de la versification. » À côté des vers du ruisseau, on en trouverait bon nombre d'autres notables par la portée philosophique et moins contestables pour la doctrine. Sous le titre de moralité, elle a exprimé bien des réflexions graves, vraies, amères, qui tentent à démasquer la vanité de notre nature. Quoi de plus sévèrement pensé, de plus sérieusement rendu, que ce point d'une méditation sur la mort ? Que l'homme connaît peu la mort qu'il appréhende, quand il dit qu'elle le surprend. Elle naît avec lui, sans cesse lui demande un tribut dont en vain son orgueil se défend. Il commence à mourir longtemps avant qu'il meure. Il périt en détail imperceptiblement. Le nom de mort qu'on donne à notre dernière heure n'en est que l'accomplissement. Madame Desoulières, qu'on voit de loin dans un costume couleur de rose, était triste. C'est une de ces personnes qui, avec le plus de moyens naturels d'être heureuses, eurent aussi le plus à se plaindre de la fortune. Née vers 1638, environ 7 ans après Madame de Lafayette, mariée encore enfant à Monsieur Desoulières, brave et habile officier qui suivit le prince de Condé dans la Fronde et chez les Espagnols, elle passa ses premières années de mariage, solitaire, retirée chez ses parents. La philosophie de Descartes et celle de Gassendi étaient aux prises. Au lieu de s'enflammer, comme Madame de la Sablière, pour Descartes, elle pencha vers Gassendi. Ce qui, au fond, n'était pas moins s'occuper de certaines philosophies subtiles, engageantes et hardies. Étant allée rejoindre son mari dans les Pays-Bas espagnols, elle y trouva le prince de Condé et toute une cour à Bruxelles. Sa beauté, son esprit y firent des conquêtes. Elle y brilla et ce fut son plus heureux moment. Le retour bien prompt en eut plus d'amertume. Des réclamations trop vives pour les appointements de son mari la firent jeter en prison. Elle y resta 8 mois. Rentrée en France, ayant négocié la grâce de M. Desoulières, qui reprit du service et vécut fort peu à ses côtés, elle ne put jamais relever ses affaires de fortune, dérangées par une longue absence, et sa vie se passa dans des gênes continuels que l'agrément de la société ne recouvrait qu'à demi. Les vers allégoriques à ses enfants, dans ses prés fleuris, etc., ne sont qu'une manière de placer à Louis XIV, désigné comme le dieu Pan, une inspiration très positive enveloppée avec grâce. Ainsi de ses autres idylles, presque toujours une plainte au fond. Sa santé se dérangea d'assez bonne heure. Elle mourut le 17 février 1694, d'une maladie au sein, n'ayant pas plus de 56 ans. Un voyage dans le Dauphiné, au bord du Lignon, une visite à Vaucluse, rentre davantage dans le genre d'existence bocagère qu'on lui suppose. Elle n'en eut que le regret et le rêve. Observant autour d'elle et en elle l'humanité d'une vue un peu chagrine, elle envia tour à tour les moutons, les fleurs, les oiseaux, les ruisseaux, cette nature enfin qu'elle voyait trop peu. Elle ne cessa d'envisager le sort, ses jeux bizarres, ses injustices, d'agiter en idée la faiblesse de l'homme, ses déceptions vaines, l'insuffisance de sa raison. « Homme, vante moins ta raison. Vois l'inutilité de ce présent céleste pour qui tu dois, dit-on, mépriser tout le reste. aussi faible que toi dans ta jeune saison, elle est chancelante, imbécile. Dans l'âge où tout appelle à des plaisirs divers, ville esclave des sens, elle t'est inutile. Quand le sort t'a laissé compter 50 hivers, elle n'est qu'en chagrin fertile, et quand tu vieillis, tu la perds. Reprenant la question posée par son maître Esnault sur le désir immodéré qu'ont les hommes de léguer leur nom à la postérité, elle en réfute non moins sérieusement que lui la chimère. Espère-t-elle donc les en guérir, s'en guérir elle-même ? Non, mais un esprit d'équité à combattre le faux incessamment m'attache, et fait qu'à tout hasard j'écris ce que m'arrache la force de la vérité. Elle sait plus à rimer en les variant, à traduire ça et là en espèce de madrigal moral, quelqu'une des maximes de la Rochefoucauld, dont l'esprit lui convenait fort. Comme lui aussi, elle avait vu périr son idéal dans la fronde. Elle avait, à sa rentrée en France, fréquenté les derniers jours de l'hôtel Rambouillet et pris un rang distingué entre les précieuses. Sommez n'a pas manqué de l'enregistrer dans son grand dictionnaire sous le nom de Dioclée. Son ton, son goût, s'était fixé dès lors, et à la différence de mesdames de Sévigné et de Lafayette, elle ne le modifia guère en avançant. De là, dans ses poésies, une mode qui pouvait, dès les années finissantes du siècle, paraître un peu vieillie. Au plus plein milieu du règne de Louis XIV, aux années d'Iphigénie et de Phèdre, elle croyait à la décadence. Mais passons vite, c'est là son crime. Disons seulement qu'elle fut fidèle aux souvenirs et aux admirations de sa jeunesse, à l'ancienne et galante cour, comme elle l'appelait. Elle remontait ainsi en idée jusqu'aux Bellegardes et aux Bassompierre. Tout ce qui survenait de nouveau, même à Versailles, lui paraissait peu poli. Elle ne s'y mêlait que malgré elle et se croyait au moment de perdre les seuls derniers auditeurs auxquels volontiers elle s'adressait. « Que ferez-vous alors ? Vous rougirez sans doute de tout l'esprit que vous aurez. Amarante, vous chanterez sans que personne vous écoute. » Ce qu'elle disait là à une amie, elle se l'appliquait à elle-même. Le lendemain de Jean Séric, elle dut le croire bien davantage. Dans ses vers d'idylle ou de chanson, elle n'était pourtant pas si raffinée toujours qu'il semblerait d'après ses délicatesses. L'hôtel Rambouillet n'avait pas réduit toute la matière en vapeur. Ses sylvandres sont quelquefois pressants et ses iris savent rougir de manière à se faire comprendre. Si, par hasard, les ombrages qui renaissent ne servent qu'à cacher des pleurs, c'est bien malgré la bergère qui s'écrie « Ah, je n'aurai jamais d'autre besoin de vous !» Jusque près de la fontaine de Vaucluse, elle s'est imaginée, qui le croirait, de voir l'or attendri et Pétrarque victorieux. On sait le mot peu platonique de Madame de la Sablière, repris depuis par Figaro. Et quoi, toujours aimer, recommencer sans cesse, les bêtes du moins n'ont qu'une saison. C'est que ce sont des bêtes. Madame des Oulières, sans le dire de ce ton de prose, et sous l'air innocent de donner l'avantage aux bêtes, n'est pas si loin de cette idée en ses idylles. Ces petits moutons sont aussitôt aimés qu'amoureux. Petits oiseaux qui me charmaient, voulez-vous aimer, vous aimez. Mademoiselle de Lenclos, sur le luth, devait chanter ses airs. Plus d'un se rappelle cette chanson pastorale du poète l'aîné, qui commence par le rossignol et finit par les moineaux. En un mot, un peu de XVIIIe siècle déjà en Madame des Oulières, puisqu'on est convenu d'appeler XVIIIe siècle cela. À côté de ses libertés de muse, elle avait une vie pure, irréprochable, disent ses biographes, et peut-être assez de pratiques religieuses, au moins pour la bienséance d'abord, et vers la fin, selon toute apparence, avec sincérité. Ainsi se gouverne l'inconséquence de nos esprits, assemblant les contradictions selon le siècle et les âges. Mais la tendance était chez elle, et j'ai voulu la noter. Elle fit une ode chrétienne en 1686, au milieu des souffrances physiques qui, dès lors, l'éprouvaient. Le ton en est élevé, senti. J'y remarque ce vers. Ôte-moi cet esprit dont ma foi se défie. L'esprit persistait. La philosophie revient toute voisine de cette pièce pénitente et de quelques paraphrases des psaumes, dans des réflexions hautement stoïques. On dirait qu'elle essaie la mort de tous les côtés. Misérable jouet de l'aveugle fortune, victime des maux et des lois, homme, toi qui, par mille endroits, dois trouver la vie importune, d'où vient que de la mort tu crains tant le pouvoir? Lâche, regarde-la sans changer de visage. Songe que, si c'est un outrage, c'est le dernier à recevoir. Elle fut très sensible à l'amitié. On la trouve entourée de mille noms, alors en vogue, dont quelques-uns ont pâli sans doute. Mais pour la douceur de la vie, il n'est pas nécessaire d'avoir affaire aux seuls immortels. Elle jouissait de tous. On ne dit pas que, comme Madame de Lafayette, elle se soit singulièrement attachée à aucun. Elle semblait leur dire, au milieu des fleurs qu'elle en recevait, comme l'abbé de Lavaux, « Que vous donnez donc en leur place? Un simple bonjour, c'est trop peu. Mon cœur, c'est un peu trop, quoique sa saison passe. » Des noms graves s'y mêlaient et sous un reflet très radouci. Elle écrit à Mascaron une épître badine, datée des bords même du Lignon. Elle cultiva précieusement Fléchier, qui le lui rendit. Fléchier, caractère noble, esprit galant, qui n'a d'autre tort que d'avoir été trop comparé par les rhéteurs à Bossuet, qu'il fallait seulement, à part son éclair sur Turenne, rapprocher de Bussy, de Pélisson, de Bouhours, et dont le portrait par lui-même est bien la plus jolie pièce sortie de la littérature rambouillée. Ce n'est pas à Madame Desoulières, mais à sa fille, ou du moins à une demoiselle de ce même cercle, qu'il l'adressa. Vivant dans ses diocèses, à Lavaux, à Nîmes, c'est-à-dire en province, il regrettait quelque peu le monde de Paris et les belles compagnies lettrées. Il était d'autant mieux resté sur le premier goût de sa jeunesse. Il correspondait à ses loisirs avec Madame Desoulières, qui se plaignait quelquefois envers de ses involontaires négligences. « Damon, que vous êtes peu tendre !» Elle le traite comme un sage du portique et le menace d'appeler l'amour au secours de l'amitié. « Un sage, être amoureux, qu'est-ce qu'on en dirait ?» Fléchier lui envoyait en offrande pour l'apaiser du miel de Narbonne. Dans ses meilleurs et ses plus poétiques moments, Madame Desoulières a fait de jolis airs. C'est ainsi qu'elle appelle un simple couplet « une idée tendre, fugitive, un sentiment rapide qui nous arrive comme à travers un son de vieux luth ou de clavecin. Nos pères aimaient cette émotion suffisante, vive, non prolongée. Berthaud a des couplets de cette sorte, charmants, de vraies naïvetés enchantées. Madame Desoulières en a juste dans ce goût, dans cette même coupe déjà ancienne alors, et qui rappelait la jeunesse de Madame de Motteville. Presque toujours le printemps, comme chez les Trouvères, en est le sujet. L'aimable printemps fait naître autant d'amour que de fleurs. Tremblez, tremblez, jeune cœur. Rondeau. Sous le consulat de Plancus, en Arles, la belle romaine, devant la grâce souveraine, les coups d'œil lancés et reçus, de ses beautés au front de reine, cher ami, que ta jeune veine range encore dans les invaincus, qui pourtant comprendra ma peine. Ah, quel beau jour j'eusse là vécu sous le consulat de Plancus. Redisant le mot de Flaccus, répétant ma plainte trop vaine, je vais donc où mon pas me mène vers les grands débris aperçus. Vaste amas de poussière humaine, blancs alisquants, je vous ai vus. J'erre seul, et de loin à peine, j'entends les savants convaincus. À ce fronton, l'un veut Bacchus, l'autre Constantin, fils d'Hélène. Moi, j'ai ma date plus certaine, et je lis encore au mur nu, sous le consulat de Plancus. Madame Desoulières elle-même a bien dans ses œuvres quelques rondeaux tout aussi vifs. Voir celui à l'abbé Testu. Fleur de 20 ans tient lieu de toute chose. Et un autre encore, bien agréable, sur ceux qu'il est difficile en amour de résister aux gens d'esprit. Contre l'amour, voulez-vous vous défendre? Dès qu'il commence à paraître, il fait cesser les froideurs. Mais ce qu'il a de douceur vous coûtera cher peut-être. Tremblez, tremblez, jeune cœur, l'aimable printemps fait naître autant d'amour que de fleurs. N'est-ce pas comme un chant de gaie fauvette qui le salue? Mais quoi de plus touchant comme simple note et de plus sensible que cet air-ci? Aimables habitants de ce naissant feuillage qui semble fait exprès pour cacher vos amours, rossignol dont le doux ramage aux douceurs du sommeil m'arrache tous les jours, que votre chant est tendre. Est-il quelques ennuis qui ne puissent charmer? Mais hélas, n'est-il point dangereux de l'entendre quand on ne veut plus rien aimer? Ainsi, chez Madame Desoulières, la sensibilité, la mélodie, remplacent quelquefois ce qui manque pour l'imagination et font taire le bel esprit moraliste et raisonneur. Dans ses pièces plus longues, elle a moins réussi. En quelques stances, pourtant, on découvrirait des éclairs de passion et surtout des traits de grâce. Dans certaines de ses églogues, la bergère délaissée accuse les bocages de s'être prêtée aux amours infidèles de l'ingrat durant toute une saison. Depuis que les beaux jours, à moi seul funeste, d'un long et triste hiver eurent chassé les restes, jusqu'à l'heureux débris de vos frêles beautés. Madame Desoulières offre trop peu de vers comme ce dernier. Je crois toutefois en avoir dit assez pour montrer qu'elle mérita de vivre. Il ne s'agit ni de réhabiliter, ni de proposer pour modèle, mais simplement de reconnaître ce qui fut, de retrouver, s'il se peut, la poésie aux moindres traces où elle a passé. La destinée posthume de Madame Desoulières ne manqua pas de vicissitudes. Elle semblait d'avance s'y attendre en se disant « Tandis que le soleil se lève encore pour nous, je conviens que rien n'est plus doux que de pouvoir sûrement croire qu'après un froid nuage aura couvert nos yeux, rien de lâche, rien d'odieux ne souillera notre mémoire. Que, regrettés par nos amis, dans leur cœur nous vivrons encore. Pour un tel avenir, tous les soins sont permis. C'est par cet endroit seul que l'amour-propre honore. Il faut laisser le reste entre les mains du sort. » On l'accusa pourtant d'une action presque odieuse, d'avoir pillé son idylle des moutons dans le recueil de Coutel. Ce fut vers 1735 que se fit cette grande découverte. Presque à la fois, le Mercure suisse, dans le numéro d'avril de cette année, le baron de la Bastille et le président Bouillet, dans des lettres à l'abbé Leclerc, janvier et février 1735, dénonçaient ou discutaient le prétendu plagiat. Fréron, depuis, et d'autres sont entrés en lice. Nous les y laissons, certains que l'idée de s'adresser à des moutons n'est pas neuve, et que la manière dont l'a fait Madame Desoulières s'approprie au tour exact de son esprit. À part ce soupçon injurieux, elle continuait de garder sa place. J.B. Rousseau, il est vrai, dans sa correspondance, affecte de la rabaisser. Vieille rancune de versificateur à la suite de Racine contre l'école de Fontenelle. Voltaire, si plein de tact en courant, quand il est désintéressé, nous indique du doigt, dans son temple du goût, le doux mais faible pavillon faisant sa cour humblement à Madame Desoulières, qui est placée fort au-dessus de lui. Pour revenir à l'école même qu'elle représente et que nous avons montré un peu jetée de côté dans le XVIIe siècle, il semble qu'elle ait eu sa revanche au XVIIIe. Je veux dire que, même sans qu'on s'en rendît compte, cette manière avant tout spirituelle, métaphysique, moraliste et à la fois pomponnée de faire des vers, prévalut et marqua désormais au front la poésie du siècle, avec quelques différences de rubans et de nœuds seulement. On en peut demander des nouvelles à Saint-Lambert, qui est en plein milieu. Voltaire, de toutes parts entouré, y échappe le plus souvent à force d'esprit et de saillie vive. La cour de Sceaux s'y complut trop pour en sortir. Et combien n'y a-t-il pas, en effet, de Madame Desoulières dans le goût comme dans les idées de cette spirituelle Launay contre laquelle un illustre critique a été si ingénieusement sévère. Il a eu raison de l'être. Le genre plus ou moins précieux, qui s'était tenu dans les coulisses sous Louis XIV, rentrait en scène en s'émancipant. Des révolutions sérieuses rompirent cette filiation qui n'était vraie que par un point à l'origine. La plupart des noms, surtout, en s'éloignant, s'évanouirent. Au commencement de ce siècle, on se retourna encore pour regarder un moment ces petites gloires près de disparaître. Mademoiselle de Meulan, qui n'était pas sans rapport de bel esprit moraliste avec Madame Deshoulières, a parlé d'elle plus d'une fois et assez bien. Mais puisque nous en sommes à ce qui est fini, il est une femme poète, plus nommée que lue, qui me paraît, à certains égards, de l'école dont j'ai parlé, et en reproduire les qualités et défauts avec la différence des époques, Madame Dufresnoy. La différence est d'abord dans la distance même qui sépare la fin du XVIIIe et le XVIIe. Les contemporains de Madame Dufresnoy crurent que c'était pour celle-ci un avantage et qu'elle allait être classique plus sûrement. Monsieur G. a écrit, dans des observations sur elle et sur ses œuvres, « Supérieure sous tous les rapports à Madame Deshoulières, mais ne devant peut-être cette supériorité qu'à l'influence des grands spectacles dont elle fut témoin et dont elle reçut les impressions, elle a conquis une palme immortelle. » L'originalité poétique de Madame Dufresnoy, si on lui en trouve, n'est pas dans les chants consacrés à des événements publics, mais dans la simple expression de ses sentiments tendres. Béranger y songeait surtout quand il a dit « Veille, ma lampe, veille encore, je lis les vers de Dufresnoy. » De bonne heure, le maître habile qu'elle eut, comme Madame Deshoulières, Esnault, et qui n'était autre que Fontane, la détourna des graves poèmes et lui indiqua son sentier. « Aimer, toujours aimer, voilà ton énergie. » Chez elle, dans ses élégies, plus de petits moutons, ni de bergères célimènes. Il était moins besoin de travestissement. C'était de l'amour après Parny. Boufflers a déjà chanté le cœur. Le positif, enfin, se découvre tout à nu. Je remarque dans le style quelque chose de précis, pas plus d'imagination et bien moins d'esprit que chez Madame Deshoulières. Mais le goût d'un jour, la manière, est-elle pour cela absente? Quand la mante poète nous dit « Arrangeons ce nœud, la parure ne messied point au sentiment, pompon pour pompon, n'est-ce pas un peu comme à l'hôtel Rambouillet ?» Les premières élégies de Madame Dufresnoy commencèrent de paraître dans les recueils poétiques aux environs de 89. Si on compare le texte à celui des dernières éditions, on est frappé des différences. Elle-même avait pu assister au changement de couleur de ses rubans, et elle essayait de les reteindre. Si on lit, dans l'Almanach des Muses de 1790, la pièce qui a pour titre « Le pouvoir d'un amant »,« J'aime tout dans celui qui règne sur mon cœur », etc., on est surpris du jargon qu'elle a osé hasarder et qui semblait tout simple à cette date. Elle l'a senti depuis. Dans les réimpressions, l'air vaurien d'Elmandre s'est corrigé en air lutin. Elle a supprimé ce vers incroyable. Son infidélité devient une faveur. On lit un peu plus délicatement. Son tendre repentir donne encore le bonheur. J'appelle cela des ressemblances avec Madame Deshoulières parce que ce délire à la Zumée du temps de Bertin eût été fadeur d'Iris au temps des bergeries. C'est ainsi, à la distance d'un siècle, que les défauts de goût, en quelque sorte, se transposent. Un rapport entre elles qu'on aime mieux signaler est dans les traits de passion, évident chez Madame Dufresnoy, mais non pas absent dans l'autre muse. Toutes les deux paraissent avoir senti l'infidélité avec une douleur qui n'éteignit pas l'amour. Amour, redonnez-lui le dessein de me plaire, mais quoi que l'ingrat puisse faire, ne sortez jamais de mon cœur. Madame Deshoulières, en déstance, l'a dit. Madame Dufresnoy l'a redit en cent façons dans ses élégies et dans la plus ardente, les serments. C'est la mise en action de ce mot de La Rochefoucauld, « On pardonne tant que l'on aime ». Il semble que cette inspiration d'un amour sans bonheur, la douleur passionnée, ait fait aussi le premier génie de Madame Valmore. Corinne et Sappho, toutes vont là. Toujours le cœur brisé qui chante, toujours le cri en poésie de cette autre parole dite à voix plus basse, en prose plus résignée, et que bien des existences sensibles ont pensé en avançant Il n'y a qu'une date pour les femmes et à laquelle elles devraient mourir, c'est quand elles ne sont plus aimées. Mais je touche à l'élégie moderne et je n'y veux pas rentrer aujourd'hui. Ce n'était qu'un rien que ce point littéraire ici aperçu. J'ai tenu pourtant à ne pas le laisser fuir. En feuilletant au hasard quelques petits hindous oubliés, un reflet de soleil m'a paru éclairé et comme dessiner exactement cette traînée de parcelles dans la poussière. Si je ne l'avais pas saisi à l'instant, je ne l'aurais sans doute plus revu jamais. Nous passons si vite nous-mêmes, nous paraîtrons si peu. Il est doux de comprendre tout ce qui a vécu. 15 octobre 1839.